enquêtes en tout genre. L'émission sociologique qui raconte la norme hétéro sur le terrain. Tous les deux mois, le jeudi à 20h, sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Les normes de genre agissent partout et tout le temps, dans toutes les situations et dans toutes les institutions. Ce sont elles qui nous obligent toutes et tous à devenir hommes ou femmes, c'est-à-dire à s'habiller plutôt comme ceci, à préférer telle couleur ou tel partenaire sexuel, à marcher dans les rues de telle manière, à éprouver de la peur dans telle circonstance, mais pas dans telle autre, bref, à toujours faire en sorte d'avoir l'air d'être ce que nous sommes supposés être naturellement. À l'école, et en particulier au moment de l'adolescence au collège, ces normes sont particulièrement visibles car c'est la période où l'on entre dans nos premières relations affectives et amoureuses et où l'on a parfois nos premières expériences sexuelles. C'est le moment où les adolescents, eux, commencent à se dire hétéro, gay, lesbienne, bi, trans, parfois en l'exposant, parfois en le cachant. Alors, comment les normes de genre et la norme cis-hétérosexuelle se déploient-elles entre les élèves au collège ? Quel impact ces normes ont-elles sur la formation des bandes d'amis, sur la projection dans l'avenir des élèves, sur leur rapport aux notes et aux profs, sur leur façon d'être en classe, dans les couloirs, sur leur façon d'occuper la cour de récré ? Comment les élèves s'approprient ces normes et jusqu'où est-ce qu'elles s'y conforment ? Pour répondre à toutes ces questions sociologiques à partir d'une enquête de terrain, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alice Vernet-Eternaud. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous êtes actuellement doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, où vous préparez une thèse que vous avez débutée en octobre 2024, qui s'intitule pour l'instant « Être collégien, collégienne et queer » et qui porte sur les processus de socialisation d'élèves au collège qui s'identifient à la communauté LGBT ou qui sont en questionnement. Vous êtes actuellement en train de mener une enquête ethnographique à partir d'observations et d'entretiens dans deux établissements scolaires, un collège parisien et un collège situé dans une commune périurbaine du Nord-Pas-de-Calais. L'enjeu de votre travail, Alice, est de replacer la sexualité au cœur de l'analyse des pratiques adolescentes et vous allez nous raconter comment les questions de genre et de sexualité occupent une place centrale sur votre terrain d'enquête. C'est tout de suite dans Enquête en tout genre sur Radio Campus Paris. Pour commencer, Alice, je crois savoir que vous étiez ce matin même sur l'un de vos terrains d'enquête, dans un collège périurbain du Nord-Pas-de-Calais, et que vous nous avez rejoint en studio directement en sortant du train qui vous ramenait à Paris. On a donc la chance de vous entendre alors que vous êtes en plein cœur de vos observations. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce collège du Nord-Pas-de-Calais et nous raconter comment ça s'est passé pour vous ces derniers jours ?
Oui, bien sûr. Alors du coup, je reviens tout juste justement de ce collège dans le Nord. Et en fait, j'y suis une semaine sur deux et je reste dans l'établissement de 8h à 16h45. J'ai pas énormément de pauses parce que les pauses sont les moments justement où il y a les adolescents dans la cour et au moment où je peux discuter avec eux. Et du coup, ces jours, bah, en fait, j'ai... Enfin, en ce moment, je commence à mener des entretiens avec les élèves. Donc, je divise mes journées entre les moments dans la cour de récréation où je discute avec eux, les moments où je les accompagne en classe et les moments où, quand ils ont une heure de permanence, je les prends dans une salle à deux, à trois et parfois seuls pour un petit peu poser des questions sur leur vie au collège, leur vie à l'extérieur également et sur comment... est-ce qu'on est au final adolescent et queer donc ?
Est-ce que vous les accompagnez par exemple aussi à la cantine ?
Oui, je mange avec eux, ce qui est assez, assez stressant aussi de mon côté en fait, parce que les adolescents sont quand même assez à cheval, on va dire, sur certaines pratiques et sur certaines choses. Et du coup, je les entends en fait un peu se critiquer entre eux. Et du coup, c'est vrai que manger avec eux me permet à la fois de quand même... entendre tout ce qui se dit en fait entre copains, mais me met aussi dans une posture où je ne dois pas trop être présente non plus pour pas les déranger dans ces discussions-là, mais en même temps ne pas faire semblant non plus de pas du tout être là, ce qui serait étonnant. Et du coup, voilà, j'évite de me tâcher, par exemple, pour pas avoir les jugements de ses élèves et qu'ils ne veulent plus manger avec moi. Donc c'est un peu une posture particulière entre enquêtrice et, enfin pas amie, mais en tout cas un petit peu dans leur quotidien quand même, quoi.
Vous devez aussi, en fait, d'une certaine manière, être un peu populaire à leurs yeux. Il faut qu'ils aient envie de traîner avec vous.
Oui, ça c'est vrai que pour être accepté dans certains groupes, il faut avoir l'air un peu populaire, justement. Après, populaire aux yeux de qui? Populaire à partir de quels critères? Moi, je me suis beaucoup posé la question de quels étaient, eux, leurs critères pour pouvoir m'intégrer parmi eux. Et donc, à partir de cette réflexion-là, j'ai essayé d'adopter des codes qui, pour eux, pouvaient leur paraître un peu cool.
Quoi, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces codes cool?
Eh ben, par exemple, le style vestimentaire est très important. Je me suis beaucoup basée sur les premières observations que j'ai faites. Après, j'ai remarqué très vite que, en tout cas, sur le collège parisien, notamment, je partage pas mal d'éléments vestimentaires avec plusieurs élèves parce qu'on est issus un peu du milieu social, enfin d'un même milieu social. Par exemple, j'ai aussi une petite sœur, en fait, qui est donc au lycée. Qui était au collège au moment où j'ai commencé mon enquête. Et donc, je me suis aussi beaucoup inspirée de la façon dont elle s'habillait, des références qu'elle a également. Elle fait aussi partie de la communauté LGBT. Et du coup, je me suis aidée, en tout cas, d'elle pour avoir les références, les mots de vocabulaire, ne pas avoir l'air d'une boumeuse, en fait, hein, concrètement.
Avoir l'air vraiment cool. C'est Alors, ça. Vous l'avez dit, Alice, dans votre enquête, elle a une visée comparative puisque vous rencontrez également des collégiens et des collégiennes dans un collège à Paris. Donc, vous avez deux terrains d'enquête, l'un à Paris, l'un dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce deuxième collège, donc de ce collège parisien, et de la nécessité, en fait, pour vous d'enquêter dans deux établissements scolaires différents et peut-être nous dire aussi un mot des caractéristiques sociales des élèves de ces deux collèges. J'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, par exemple, dans l'un des établissements et pas dans l'autre?
Alors oui, donc je mène une enquête comparative. La volonté de mener cette ethnographie dans deux établissements vient du fait que donc j'ai commencé cette enquête dans mon terrain parisien et j'ai très vite observé des manières de faire, des manières d'être, des manières de penser que je qualifie de queer. Mais j'ai également remarqué en fait que certains élèves LGBT n'adoptaient pas ces codes et passaient un petit peu sous les radars parfois de mon enquête que j'ai rectifiée. Et du coup, je me suis dit, bien sûr, en fait, pas tous les adolescents LGBT sont pareils. Donc, il y a leurs caractéristiques socio-économiques, aussi géographiques et de l'établissement qui ont fait que, du coup, j'ai souhaité mener cette double ethnographie pour les comparer. Et il y a bien évidemment des différences dans la façon, comme j'ai dit, d'être et de faire. Pour revenir un petit peu rapidement sur les caractéristiques des élèves, le collège parisien est un collège donc parisien intramuros qui a une population assez, divisée en deux pôles. Il va y avoir un pôle plutôt issu de la bourgeoisie culturelle avec beaucoup d'enfants de comédiens, de musiciens. Vraiment cette partie très culture légitime, et du coup un autre pôle avec des enfants plutôt issus de familles issues de l'immigration. Il y a également deux foyers d'accueil d'aide sociale à l'enfance, donc les enfants viennent de là, ce qui fait un clivage assez étonnant au sein de l'établissement. Et pour le collège dans le Nord, c'est un collège en REP, réseau prioritaire de la ville, réseau éducatif prioritaire. Et du coup, c'est plutôt des familles blanches, issues de classes populaires stabilisées, mais assez économiquement pauvres quand même.
Donc on voit bien la différence entre les deux établissements. Je crois savoir que le collège dans le Nord-Pas-de-Calais est plutôt périurbain. Est-ce que c'est vraiment en milieu rural ou est-ce que c'est aux alentours d'une grande ville? Je sais que pour des raisons d'anonymisation et de déontologie de la recherche en sciences sociales, vous ne pouvez évidemment pas dire où se situe exactement ce collège, mais pour qu'on ait un petit peu une petite idée de son environnement.
Alors, c'est un collège qui est lui-même à la périphérie de la ville, en fait. Donc, c'est une ville qui est assez proche d'une des grandes villes du Nord-Pas-de-Calais, donc pas très loin de Lille, qui est accessible en train. Mais, en fait, le collège est séparé de la ville par les voies ferrées. Et du coup, est vraiment quand même de l'autre côté, dans ce que les habitants de la ville qualifient de la cité. Et du coup, il y a ce quartier, enfin le collège est entouré de logements sociaux. Et derrière, ça va plutôt être du coup des champs en fait et des petits villages. Donc c'est assez particulier comme position parce que le collège n'est pas très loin du centre-ville, mais il faut passer. Enfin, il y a quand même une frontière physique en fait un petit peu qui marque quand même. Enfin, qui délimite en tout cas le collège et le centre-ville, quoi. Mmh.
Et donc, vous avez commencé vos entretiens et vos observations auprès des collégiens et collégiennes en octobre 2024, on le disait tout à l'heure. Et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, en fait, sur la genèse de votre projet. Pourquoi, finalement, est-ce que vous vous êtes intéressé à la socialisation des élèves au collège qui s'identifient à la communauté queer ou à la communauté LGBT ? On viendra sur ce lexique après.
Eh bien, du coup, j'ai... commencé cette enquête donc en master, alors que je faisais un master en sociologie générale à l'EHESS. Et en fait, j'étais parallèlement à mon master surveillante, donc dans l'établissement parisien. Je ne travaillais pas du tout sur ça à la base. Et en fait, au sein de cet établissement, j'ai rencontré des élèves LGBT+, avec qui j'ai interagi assez vite. Et qui en fait ont commencé à émettre le souhait de monter donc une AGIS, qui est une sorte de club LGBT, d'alliance autour de ces sujets-là. C'est en encadrant ce club et en échangeant avec les élèves que j'ai remarqué très vite, je pense avec peut-être les premières bases de sociologie que j'avais. Des choses différentes dans la façon d'interagir au sein de l'établissement, d'interagir entre eux et de voir le monde. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à voir, quelque chose que je n'ai pas lu ailleurs. J'en ai parlé à ma tutrice à l'époque et qui m'a dit, mais bien sûr, c'est intéressant, vas-y, quoi.
Donc, vous étiez déjà au sein, surveillante, en fait, au sein du collège parisien dans lequel vous enquêtez toujours aujourd'hui ?
Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé par être surveillante. J'ai été surveillante pendant 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et après, donc, à la fin, j'ai arrêté mon poste de surveillante au moment de la rédaction de mon mémoire. Et ensuite, quand j'ai commencé la thèse, mais j'ai toujours gardé un lien avec cet établissement et je suis encore encadrante du club.
D'accord. Donc, vous n'êtes plus surveillante aujourd'hui, mais toujours encadrante, oui. Encadrante du club. Comment vous vous y êtes prise pour rentrer dans le collège du Nord-Pas-de-Calais ? On sait, quand on fait de la sociologie, que ce n'est pas toujours facile d'entrer dans les établissements scolaires, qu'il y a beaucoup de formulaires à remplir, que ça doit passer parfois par le rectorat, etc. Vous avez réussi à convaincre directement le ou la proviseur de l'établissement. Comment ça s'est passé ? Et comment vous avez présenté votre enquête ?
Alors, ça n'a pas été du tout un parcours facile pour intégrer un établissement scolaire. Moi, à la base, je viens donc de Bourgogne et je souhaitais faire mon enquête dans un collège rural d'une région que je connais et qui me rappelait un petit peu ma propre expérience. Et en fait, après avoir envoyé plus d'une trentaine, voire quarantaine, je crois, de requêtes à des établissements et essuyé que des refus, j'ai eu la chance en fait d'échanger avec Kevin Dieter, un sociologue qui travaille sur l'enfance et qui travaille notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et qui était en contact avec une des membres de l'Observatoire de lutte contre les LGBT-phobies de l'Académie de Lille, qui du coup en fait m'a mis elle en contact avec plusieurs chefs d'établissement de la région. Et voilà, et après je suis rentrée un petit peu comme ça. Et pour présenter mon enquête, en fait, au début, je souhaitais pas forcément dire que je travaillais sur les adolescents LGBT parce que c'est un sujet un peu tendu dans l'actualité aujourd'hui. Et du coup, j'estimais que peut-être ce serait plus simple en disant que je travaille sur les adolescents. Donc c'est comme ça que je me suis présentée aux différents établissements scolaires en Bourgogne, ce qui n'a pas fonctionné non plus, en fait.
On vous a dit non directement ?
Alors, j'ai eu plusieurs réponses. Certains ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour une enquête. D'autres que l'adolescence, ça allait. Et
qu'il n'y avait rien à dire dessus finalement.
Oui, enfin, qu'il y avait des choses à dire dessus, mais que quand il me demandait de préciser que je disais que je travaillais un petit peu sur les discriminations, les inégalités, me disait qu'au sein de leur établissement, eux, il n'y avait pas ce genre de problème, ou qu'en tout cas c'était du harcèlement et que du coup ils le géraient avec un programme de l'éducation nationale, le programme phare. Et voilà, et du coup ça fait que ça a été compliqué de rentrer en contact avec les établissements.
Mmh. Et donc aujourd'hui, vous êtes bien intégré dans les deux collèges dans lesquels vous enquêtez, donc ce collège parisien et ce collège dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous suivez, vous nous l'avez dit, les élèves dans toutes leurs activités au sein du collège, mais également en classe. Est-ce que vous avez des interactions aussi avec le personnel enseignant, avec d'autres adultes qui encadrent les jeunes au sein du collège, ou est-ce que vous gardez votre enquête uniquement avec les élèves?
Alors, je suis en contact avec certains adultes de l'établissement, mais principalement en fait avec l'équipe de vie scolaire, étant donné que ce sont les adultes qui sont les plus proches des élèves, puisque c'est le seul adulte en fait que l'élève peut tutoyer au sein de l'établissement. Et du coup, en étant avec cette équipe-là, ça fait que j'ai aussi certaines histoires que les surveillants se racontent entre eux et qui me permet aussi d'identifier certains élèves et certaines problématiques et d'être perçu par les élèves comme en fait un adulte qui n'a pas forcément d'impact sur leur scolarité directement et du coup créer un lien de confiance un peu plus simple. Mmh. J'ai parfois des contacts avec les professeurs, mais j'avoue que j'évite un petit peu parce que j'ai pas envie que les élèves m'associent à la figure en fait du professeur qui encadre en fait.
Les élèves eux-mêmes savent que vous êtes jeune chercheuse, que vous êtes sociologue, que vous enquêtez entre guillemets sur elle et eux.
Alors c'est compliqué parce que pas tous les élèves, quand j'arrive dans l'établissement, en fait on m'a présentée comme étant une personne qui fait une enquête. J'ai été présentée à travers un mail qui a été diffusé à l'ensemble des élèves. Après, bien sûr, tous les élèves ne lisent pas leur mail, donc du coup, voilà. Mais quand je discute avec les élèves, bien sûr, je me présente en disant que je fais une enquête sur l'adolescence pour ne pas, en fait, pointer du doigt et mettre en danger les élèves avec qui j'échange. Oui, en règle générale, les élèves savent ce que je fais. Parfois, viennent me poser des questions directement en disant « Ah bah ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Ce genre de choses qui des fois ne sont des choses qui ne m'intéressent pas forcément, mais en tout cas je donne le change et j'échange aussi avec les élèves qui ne font pas partie de mon enquête forcément.
Est-ce qu'il vous arrive d'en suivre certains ou certaines dans leurs activités en dehors du collège, et est-ce que vous avez rencontré des parents par exemple ?
Alors, l'objectif à la base était de les suivre en dehors, en effet, notamment dans leurs activités extrascolaires, éventuellement avec des sorties entre amis et sur les réseaux sociaux. Mais ça a été plus compliqué que prévu, notamment parce qu'en fait, ça reste des collégiens. Et contrairement aux enquêtes sur les lycéens, au collège, on a beaucoup moins de liberté, que ce soit au sein de l'établissement, mais également en fait, au sein de la famille. Et du coup, il y a certaines familles qui sont assez restrictives par rapport à ça. Et en fait, j'ai préféré aussi, du coup, peut-être leur laisser aussi un espace où je n'étais pas, pour leur foutre la paix un peu. Et par contre, j'ai quand même contacté les parents pour des interviews. Mais pas tous ont accepté, certains. Ça dépend des raisons, notamment pour des raisons d'emploi du temps, en fait, la plupart du temps. Qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais les parents que j'ai rencontrés ont été très disponibles et prêts pour répondre à toutes mes questions, donc c'était chouette.
On continue cette discussion juste après une petite pause musicale avec le morceau Indécise de Yoa, choisi par notre invitée Alice Vernet-Eterno.
Indécise, toujours indécise, indécise. indécise, indécise, indécise. J'ai pas de problème de discipline, j'ai juste mal appris ma leçon. Les doigts glissant par ma cyprine, je m'essuie sur mon pantalon. Tu veux que je retourne à la cuisine, j'ai pas fini de prendre l'attention. Ce soir on se retrouve en ville et moi j'irai tourner en rond. Choix de carrière indécis, c'est pas ma faute si ça va pas. Tu me prends pour une imbécile, je voulais juste copier Rihanna. Dans votre monde je résiste, y'a que sur scène que je fais ma loi. T'étonnes pas si je me désiste et si à la fin je m'échappe. Seul, mes rêves étalés dans un linceul. Mes tisses dessinées à la noirceur. Et j'irai dormir près de ma sœur. Je m'échappe seul. Mes rêves étalés dans un linceul. Mes tisses dessinées à la noirceur. Et j'irai dormir près de ma sœur.
Nous sommes toujours avec Alice Vernet-Eterno, doctorante en sociologie à l'EHESS qui étudie les processus de socialisation d'élèves au collège qui s'identifie à la communauté LGBT+.
Enquête en tout genre sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
On parlait, Alice, à l'instant de votre enquête de terrain que vous êtes en train de mener actuellement et durant laquelle vous rencontrez des collégiens et des collégiennes dans deux établissements publics, l'un parisien, l'autre situé dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour continuer cette discussion, j'aimerais, Alice, que vous nous en disiez un peu plus sur les normes de genre et en particulier sur la norme cis hétérosexuelle et sur la façon dont celle-ci se donne à voir au collège. Il existe, on l'a dit tout à l'heure, des dispositifs de prévention contre l'homophobie à l'école, comme l'AGIS, donc l'Alliance Genre-Identité-Sexualité, dont vous nous avez parlé, et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce type de dispositif. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se met en place une AGIS dans un établissement? Et quelles sont ses activités? Il me semble que c'est particulièrement intéressant de le comprendre avec les lunettes de la sociologie parce que ces dispositifs nous renseignent en fait sur la façon dont les politiques publiques voient les personnes LGBT, Alice.
Oui, alors donc une AGIS, c'est une alliance genre-identité-sexualité. C'est en fait un espace qui est créé dans les établissements scolaires par les élèves et pour les élèves, afin d'aborder les questions de genre et de sexualité non cis-hétéronormées. Et ces dispositifs sont assez récents en France. Le premier a été mis en place à Paris dans un lycée, juste avant le Covid, donc ça a été voilà, un peu un démarrage compliqué. Mais c'est en fait un dispositif qui vient d'Amérique du Nord, notamment du Canada, qui sont appelés là-bas, il me semble, les GSA, Gay and Straight Alliance. Donc en fait, dans ces dispositifs, la question d'alliance est très importante. Ça va venir favoriser une alliance entre les élèves LGBT et les élèves cis-hétérosexuels, afin de sensibiliser du coup, ces derniers sur les questions LGBT+. Ce dispositif est poussé au sein de l'Académie de Paris par l'Observatoire de lutte contre les LGBT-phobies qui s'est créé, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais à peu près au même moment, voilà, 2019-2018, suite du coup en fait à une nouvelle politique de lutte contre les LGBT-phobies à l'école. Et donc, ce que ces dispositifs nous disent, en fait, de la façon dont sont perçus les adolescents LGBT+, c'est en fait une retrouvaille un petit peu entre deux visions de la façon d'aborder la sexualité à l'école. Une vision plutôt sur, avec un volet de santé et de santé mentale et de santé sexuelle, et un volet de lutte contre les discriminations. Et en fait, l'AGIST vient allier ces deux aspects en, avec un côté donc, de sensibilisation, d'information de la communauté éducative, et de l'autre, un espace de parole et de libération de la parole, si on peut dire, pour les élèves avec la LGBT+, avec la création voilà, d'un espace pour s'exprimer, où il n'y a pas de jugement. Voilà. Après, bien sûr, c'est également sur le papier, et ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans tous les établissements, et avec tous les élèves. Mais du coup, en gros, c'est un petit peu ça, les AGIS.
Cette AGIS, elle est donc dans le collège parisien. Est-ce qu'il y en a une également dans le collège du Nord-Pas-de-Calais ?
Non, il n'y a pas d'AGIS. C'était aussi une volonté de ma part d'aller dans un établissement où justement, il n'y avait pas ce genre de dispositif pour mon enquête. Mais en fait, les observatoires de lutte contre les LGBT-phobies sont... en tout cas, c'est recommandé d'en créer une dans chaque académie. Pour l'instant, il n'y en a pas dans toutes les académies, mais il me semble dans une bonne moitié, voire un peu plus de la moitié. Certaines se sont ouvertes l'année dernière. Enfin voilà, c'est assez récent comme dispositif, l'observatoire. Et donc, l'AGIST est juste un outil de ces observatoires. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le collège ne souhaite pas forcément ouvrir une AGIS. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été mentionné ni par les élèves, ni par la communauté éducative. Mais d'autres choses sont mises en place. Il y a des formations pour les personnels professeurs et surveillants. Voilà. Il y a la volonté de créer un référent LGBT+. Comme il y a des référents égalité hommes-femmes dans des établissements, référents écologie, là voilà, ce serait du coup ce type de référent-là qui est une oreille un peu pour les élèves LGBT. Et il y a l'organisation de festivités pour le 17 mai, qui est donc la journée de lutte internationale, enfin la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qui est célébrée. Dans la plupart des établissements aujourd'hui, en tout cas.
Et donc, cette AGIS, les élèves, je crois savoir, l'appellent plutôt le club. Comment est-ce que ce club, il est perçu au sein du collège ? Finalement, qui vient dans ce club ? Est-ce qu'il y a des élèves qui quittent le club ? Est-ce que ce sont seulement les élèves qui ont des codes queer qui viennent dans ce club ? Ou est-ce que tout le monde est le ou la bienvenue ?
Alors, sur le papier, tout le monde est le ou la bienvenue, mais dans les faits, pas tout le monde vient. Je vais commencer par dire un petit peu comment est-ce qu'il est perçu. Ce club n'est pas forcément très bien perçu par l'ensemble des élèves, comme on peut un peu s'en douter. Il est appelé par les élèves, enfin par les autres élèves, le club gay, de manière péjorative. Donc, c'est quand même un peu un combat aussi au sein du collège, en fait, d'affirmer que ce n'est pas un club gay, mais un club qui parle de ces questions-là pour sensibiliser.
Ça peut être un stigmate un petit peu d'être dans ce club pour les collégiens, collégiennes qui y sont ?
Oui, oui, ça peut être un stigmate. Quand les élèves arrivent dans le club, c'est quelque chose qu'on souligne aussi en disant, voilà, il y a certaines actions qui peuvent être visibles, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions, parce que si vous faites certaines actions, vous allez être visible comme membre du club, et donc... potentiellement stigmatisé. Après, il y a un accompagnement très fort au sein de cet établissement autour de ces élèves-là pour justement éviter un peu les répercussions en fait, de l'engagement au sein de ce club. Mais à l'inverse, c'est aussi un club qui permet beaucoup de choses pour les élèves. Il y a des sorties scolaires qui sont organisées par ce club. Il y a eu une invitation à la Sorbonne pour rencontrer certains membres du rectorat et discuter de ces questions-là. Donc en fait, ça donne aussi certaines opportunités à ces élèves. Et certains d'ailleurs cherchent la visibilité également. Donc voilà.
Bien sûr. Combien il y a d'élèves dans ce club pour qu'on se le représente un petit peu ? Est-ce que c'est plutôt des élèves qui sont à la fin du collège, plutôt en troisième ? Ou est-ce qu'il y a aussi des élèves qui, dès la sixième, veulent faire partie du club ?
Alors, en ce moment, il me semble qu'il y a une quinzaine d'élèves, ce qui est assez énorme. Pas tous identifiés à la communauté LGBT+. C'est voilà, certains questionnements, certains comme alliés. À l'origine du club, il y avait donc quatre élèves, dont trois élèves de troisième et une élève de quatrième. Donc c'était plutôt un club de grands. Les thématiques qui étaient abordées étaient des thématiques un peu plus... Enfin, qui les concernaient un petit peu plus. Il y avait beaucoup de questions sur l'amour, sur la sexualité, sur tout ce qui pouvait tourner autour de ça. Mais ensuite, ces élèves-là sont partis et du coup, il a fallu un petit peu donner envie à d'autres élèves de venir. Et là, ça a été un peu la question de qu'est-ce qu'on propose. Et en fait, très vite, des nouveaux élèves sont arrivés, des élèves de 6e, de 5e, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques, qui n'ont pas forcément les mêmes envies, mais qui se retrouvent sur certains sujets, et donc notamment les actions organisées de sensibilisation, voilà.
Donc les dispositifs de prévention de l'homophobie mis en place par les politiques publiques dans les établissements scolaires, on l'a dit, parlent pour les identifier de personnes LGBT+. J'aimerais bien qu'on revienne un peu ensemble sur ce lexique. Est-ce que c'est celui qui est employé par les collégiens et les collégiennes pour se définir, ou bien est-ce qu'elles emploient un autre vocabulaire ?
Alors là, ça dépend vraiment des élèves, ça dépend aussi de leur origine sociale, beaucoup, et des ressources qu'ils ont. Mais en tout cas, oui, ils vont plutôt se définir un peu sur, sur cette fourchette-là de lesbienne, gay, bi, pan et trans. C'est un petit peu les cinq qui sont majoritaires, on va dire. Après, certains élèves, en tout cas au début de mon terrain, un petit peu moins maintenant, se définissaient comme queer, mais c'était des élèves qui étaient particulièrement politisés, qui avaient aussi particulièrement politisé leur identité. C'était notamment deux élèves non-binaires, ce qui n'est pas du tout la même approche en fait, du club pour ces élèves-là que pour les élèves où c'est uniquement des questions de sexualité. Et donc là, voilà, les termes employés et revendiqués, en tout cas, diffèrent vraiment.
Alors, j'aimerais qu'on vienne maintenant, Alice, sur l'hétéronormativité au sein de l'institution scolaire et en fait sur la façon dont cette norme s'y déploie, parce que finalement, c'est ce que vous observez. Concrètement, qu'est-ce que cette norme fait aux façons d'être des élèves qui ne se définissent pas comme hétéros ? Comment finalement ça joue sur leur manière d'occuper les espaces du collège, par exemple ? Je crois que vous avez demandé aux élèves de dessiner un schéma de la cour de récré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce dispositif d'enquête qui est assez original?
Oui, alors donc c'est vrai que cette norme cis-hétérosexuelle change beaucoup de choses, enfin vient en fait impacter beaucoup les élèves. Moi, ce que j'ai remarqué, pour le faire assez bref, c'est qu'il va y avoir beaucoup de stratégies en fait pour vivre avec, en fait, pour être scolarisé dans un établissement où cette norme domine, et cette norme qui est du coup qui vient invisibiliser ou marginaliser justement leur identification. Et donc, pour un petit peu essayer de saisir cette façon d'être et cette façon d'agir, j'ai décidé de la saisir à travers l'espace et l'analyse de comment est-ce que ils investissent les espaces scolaires. Et pour cela, j'ai essayé de les observer dans l'espace, qui n'était pas facile puisque c'est assez difficile de les voir et ils ne sont pas très visibles et ils se cachent aussi pour beaucoup. À partir des premiers élèves que j'identifiais, je leur ai demandé de faire, de compléter et de légender un schéma que j'avais moi-même dessiné de la cour de récréation pour un petit peu identifier les espaces où ils allaient, ce qu'ils évitaient et pourquoi. Et du coup, ce dispositif m'a permis, moi ensuite, de savoir où observer, de savoir où aller pour faire cette enquête et également donc d'identifier d'autres élèves à partir de ces critères-là.
Quels sont les lieux que ils et elles vont investir, par exemple, pour qu'on ait une petite image mentale de la façon dont ils et elles occupent l'espace au collège ?
Ils vont beaucoup investir les couloirs qui ne sont pas dans la récréation, mais du coup qui sont autour, parce que ce sont des espaces qui physiquement en fait les séparent des élèves cis-hétérosexuels et de cette norme. Ils vont investir beaucoup les espaces où il y a des adultes également, puisque ça reste, malgré les différences idéologiques de chaque professeur, les garants en fait de l'autorité et du règlement scolaire, qui du coup est quand même assez punitif par rapport aux discriminations. Et du coup, ils vont investir ces espaces-là. Aussi, en fait, beaucoup d'espaces calmes, comme le CDI, ou les clubs. Le midi, par exemple, les élèves sont énormément au sein de différents clubs. J'ai des élèves qui n'ont aucun midi libre.
L'idée, c'est de ne pas se retrouver toute seule ou tout seul dans la cour, c'est ça ?
Oui, l'idée, c'est surtout de ne pas se retrouver dans la cour tout court, en fait. Enfin, il y en a, bien sûr, qui sont dans la cour. Hein. Déjà, pas tout seul, ça, c'est sûr, mais je crois qu'aucun adolescent, aucun collégien ne veut être tout seul dans la cour. Mais oui, le but, c'est en fait d'éviter un petit peu la cohue, d'éviter les moments et les endroits où, en fait, les élèves sont entre eux, avec une surveillance un peu moindre que quand ils sont en classe, ce qui fait que du coup, la culture juvénile et la norme dominante hétérosexuelle s'expriment plus facilement, quoi.
Et du coup, quelles sont les relations de ces élèves queer avec les personnes qu'ils et elles identifient comme hétéros, avec les autres élèves ?
Alors là, encore une fois, ça dépend des élèves et ça dépend aussi beaucoup de leur identification. Les élèves lesbiennes ou gays ou bisexuelles, pour la plupart, ont des amis hétérosexuels. Les garçons gays, plutôt des filles. Ils ne sont pas fortement intégrés en fait, dans les groupes de garçons cis-hétérosexuels. Ils évitent d'ailleurs les toilettes des garçons. Les filles n'ont pas... Enfin, en tout cas, les filles cis, mais qui... non hétérosexuelles traînent beaucoup entre elles, mais également avec d'autres filles et avec d'autres garçons, mais des garçons qui ne sont pas, enfin en tout cas qu'elles n'associent pas à une norme hétérosexuelle hégémonique et à une masculinité assez hégémonique. Par contre, les élèves non binaires et les élèves trans, ce sont des élèves qui, en fait, ont très peu d'échanges avec les élèves cis-hétérosexuels. Enfin, en tout cas, très peu d'amitié. Ils ont des échanges, parce que de toute façon, ils sont assez obligés quand même. Et il y a aussi des gens qu'ils apprécient quand même. Mais ils vont être amis beaucoup avec d'autres élèves LGBT+, et chercher à être dans des espaces où ces élèves sont majoritaires.
Est-ce que pour ces élèves donc, qui se définissent comme queer ou comme LGBT+, il y a une figure hétéro repoussoir dont ils vous parlent en entretien ?
Oui, bien sûr. Ça va dépendre des élèves également. Mais en tout cas, il va y avoir une assez nette séparation entre en tout cas, les hétérosexuels et eux, dans un premier temps. Et notamment, en fait, tous les élèves hétérosexuels dont l'expression de genre et l'expression de sexualité tend vers une comment exprimer ça, vers une sexualité hégémonique, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas une sexualité très sexualisante, notamment les filles qui vont être en repoussoir, ça va être des filles qui se maquillent beaucoup, qui sont très intégrées dans les dynamiques romantiques de l'établissement. Ça va être aussi notamment beaucoup des filles de classe populaire, tout comme les garçons, où du coup là, l'imaginaire raciste et classiste en fait, que les élèves ont, notamment par leur famille, va en fait beaucoup jouer dans le fait qu'ils ne vont pas forcément vouloir traîner dans les espaces où les garçons de classe populaire racisés vont être, sous couvert de, en fait, ce sont des élèves par essence homophobes, quoi.
On continue cette discussion passionnante, Alice, juste après une petite pause musicale avec le morceau Garçon bleu de Mademoiselle K, choisi par vous.
Sorti de mon rêve, il regardait les gens dans les... envie. Un moment qui était parfait pour me raconter tout ce qui me chantait. J'ai inventé toute cette histoire pour garçon triste en moi dans le noir.
Nous sommes toujours avec Alice Vernet-Eterno, doctorante en sociologie sur le rapport au genre et à la sexualité des adolescentes au collège.
Enquête en tout genre sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Dans cette dernière partie de l'émission, j'aimerais qu'on parle un peu de vous en tant qu'enquêtrice et de l'incidence que cette enquête peut avoir sur vous, Alice. Tout d'abord, il me semble donc que dans le collège parisien où vous enquêtez, vous dites avoir été repérée par les élèves LGBT+, c'est le mot qu'ils et elles emploient. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ces élèves vous ont repérée ?
Je dirais que... Comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, il y a tout cet exis corporel et vestimentaire.
Donc la manière d'être, hein, le comportement corporel, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. Petite anecdote, en gros, quand moi je suis arrivée, donc le CPE de l'établissement m'a indiqué que tel élève était non-binaire et utilisait tel pronom. Et en fait, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai utilisé son pronom. Après, en discutant avec l'élève, il m'a dit « Oui, moi j'ai tout de suite compris que t'étais de la communauté parce que t'as pas hésité à le faire et en fait tu connaissais déjà la non-binarité. » Et du coup, c'est aussi sur ça, sur un peu la façon dont j'ai appréhendé la question du genre, que les élèves ont pu me repérer en plus ensuite de mes habits et de la façon d'être, quoi.
De tout ce qui touche finalement à vos pratiques corporelles, à votre style, etc. Est-ce que vous avez appuyé certaines de vos pratiques vestimentaires ou cosmétiques ou de maquillage ou la coiffure, les cheveux, etc. pour justement vous fondre un peu dans ce décor? On en parlait un tout petit peu au début de cette émission, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir comment vous êtes perçue, vous, en fait, par les élèves.
Oui, bien sûr. Hein. Une fois que j'ai commencé mon enquête et que j'ai voulu, atteindre d'autres élèves LGBT+ qui ne me connaissaient pas, j'ai adopté en fait les codes un peu clichés.
Quels sont-ils, du coup, ces codes, pour qu'on en ait une petite image ?
Eh bien, donc, j'avais des Doc Martens et je portais mes Doc Martens. J'avais bêtement une bague au pouce. À l'époque, j'avais une coloration, j'étais blonde, donc en fait, ça jouait aussi. Donc, c'est tous ces petits détails-là. Je sais que j'avais, si je me souviens bien, il y a un moment où j'avais un bracelet aux couleurs arc-en-ciel. Enfin, en fait, c'est des petits détails qui peuvent paraître peut-être pas forcément très repérables, mais pour les élèves concernés, ils le savent, quoi.
Parce qu'en fait, les élèves, si je comprends bien, se repèrent aussi entre elles via ces petits attributs corporels, comme la bague au pouce, par exemple.
Oui, c'est ça. Dans les entretiens que j'ai pu mener, je leur pose la question, en fait, pour vous, comment est-ce que vous savez que telle personne est LGBT ou pas? Et en fait, ils me disent si une personne porte une bague au pouce, il n'y a pas de doute. Si une personne a un undercut, c'est sûr, c'est une lesbienne. Donc voilà, c'est un petit peu aussi au fil du temps où j'ai accentué plus ou moins certaines choses en fonction de leurs réponses, bien sûr qui ne permettent par contre pas d'atteindre tous les élèves puisque ça reste des codes qui sont ancrés dans un certain milieu social, ce qui fait que voilà, y a certains élèves dont j'ai découvert l'homosexualité assez tard dans mon enquête via d'autres cadres du coup.
Et du coup, comment ces élèves qui ne performent pas les codes queer sont-ils elles perçus par les autres élèves LGBT+, justement ?
Eh ben, ils sont pas perçus pour la plupart ou voilà, un peu peut-être pas réprimandés, mais j'ai en tête l'exemple d'un groupe de copines sauf une, en fait, donc toutes issues de classes culturelles bourgeoises blanches, sauf une dont les parents sont issus de l'immigration marocaine et qui, en fait, a beaucoup adopté au fur et à mesure les codes de ces élèves-là sur leurs conseils. Et notamment, je repense à une scène d'une préparation pour aller à un rendez-vous.
Un rendez-vous amoureux ?
Oui, un rendez-vous amoureux donc, de cette élève-là. Et ses copines lui disaient « Non, mais il faut qu'elle sache que t'es lesbienne, tu peux pas t'attacher les cheveux. » Et l'autre élève, du coup, qui avait les cheveux très frisés, disait « Bah oui, mais en fait, moi, si je me les attache pas, j'aime pas. » voilà. Et du coup, c'est aussi en fait, un peu ce conflit de normes, parfois, qui est intéressant à observer et de voir qu'en final, cet élève s'est attaché les cheveux et a fait un liner comme ses élèves disaient que ça faisait lesbienne, quoi.
Donc c'est aussi extrêmement situé socialement finalement ces pratiques. Est-ce que vous arrivez à poser des questions sur la sexualité ? On voit bien que la manière là, de se définir comme LGBT, ça n'a pas que à voir avec les pratiques sexuelles, mais que ça dit quelque chose aussi de la manière dont on se tient, dont on s'habille, dont on bouge, etc. Les questions sur la sexualité sont difficiles à poser en sociologie et j'imagine encore plus face à des adolescentes. Est-ce que c'est des discussions que vous arrivez à avoir avec elle?
Oui, c'est des discussions que j'ai en entretien. Bien sûr, pas au début de l'entretien et souvent même pas au premier entretien. Je fais plusieurs entretiens avec les élèves, donc ça arrive au bout d'un moment. Et du coup, je leur pose des questions en expliquant, bien sûr, que s'ils n'ont pas envie de répondre à ces questions-là, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est assez bien pris, mais c'est quand même sujet à rigolade. C'est assez marrant à voir. Je pose des questions très intimes sur les pratiques, beaucoup sur le visionnage de pornographie ou d'éléments en fait érotiques.
Sur la masturbation également ?
Oui, également. Et du coup, ces questions-là sont... Enfin, les élèves, certains me répondent assez franchement, sans trop de tabou, voire parfois un petit peu... Enfin, ce serait bien qu'il y en ait un peu. mais d'autres avec un peu plus des mots, voilà, demi-mots. Mais en général, au bout d'un moment, avec une certaine confiance qui s'établit, c'est quand même des sujets qui peuvent être abordés. Et je pense qu'il y a aussi un assez gros tabou autour de la sexualité des adolescents. Beaucoup pensent que les élèves sont très gênés ou que les élèves ne sont pas là-dedans. Ou au contraire, trop. Enfin voilà, il y a plein de discours différents qu'ils rencontrent autour de la sexualité des adolescents. Et en fait, c'était pas une si grosse montagne que ça sur mon terrain. Les élèves sont pas forcément plus gênés que sur d'autres sujets. Donc en général, ça va.
Et puis on voit bien comment le fait de faire plusieurs entretiens, en fait d'établir une relation de confiance sur le long terme, finalement vous permet de tisser des liens qui font qu'ensuite vous pouvez poser ces questions. Est-ce que par moment, quand vous êtes sur votre terrain, ça vous rappelle parfois certaines de vos expériences à vous lorsque vous étiez collégienne ? Est-ce que ça vient faire surgir chez vous des souvenirs de votre propre expérience en tant que collégienne ?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de petites techniques que j'emploie sur mon terrain qui sont inspirées directement de ce que moi j'ai pu vivre, notamment autour de ces discussions autour de la sexualité, où moi j'en parlais beaucoup avec mes amis et j'avais déjà une amie qui était lesbienne à l'époque. Et donc en fait, c'est en sachant tout ça que je me suis dit que en fait, moi j'en parlais à l'époque et je pense que ça ne m'aurait pas dérangé d'en parler avec une adulte avec qui j'avais confiance. Et donc, ça m'a ça me donne un petit peu aussi d'idées sur que faire, où aller, comment aborder les choses. Et bien sûr, ça me rappelle aussi des souvenirs et je pense que j'ai une grande tendresse pour les élèves avec qui j'enquête, enfin auprès de qui j'enquête parce que ça me rappelle un peu moi, mes amis, ma sœur, la sœur d'autres amis qui sont plus jeunes. Donc en fait, c'est aussi chouette de voir l'évolution qu'il y a eu il y a une dizaine, douzaine d'années et aujourd'hui, et qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Vraiment.
Plutôt positivement, selon vous?
Plutôt positivement, oui. Il y a quand même peu d'élèves dans ceux que j'ai rencontrés qui ne connaissent pas du tout la communauté LGBT+, qui ne sont au courant de rien, d'autant plus qu'il y a des interventions dans les établissements qui aident aussi, et les réseaux sociaux, et enfin tout un tas d'autres choses. Mais en tout cas, c'est assez positif sur l'évolution. Bien sûr, il y a un retour de bâton un petit peu, parce que les insultes fusent assez facilement dans la cour de récréation, là où peut-être, moi en tout cas à mon époque, j'avais l'impression que c'était juste inexistant. Donc il y avait j'ai pas souvenir d'avoir ressenti une haine contre les personnes LGBT, mais plutôt une indifférence. Alors que là, voilà, il y a quand même un retour assez parfois dur pour les élèves, je le vois bien. Mais en même temps, une solidarité, une certaine fierté qui se ressent aussi dans comment est-ce qu'ils peuvent vivre en fait leur homosexualité et leur transidentité, quoi.
Et puis vous le disiez au début de l'émission, vous avez finalement en fait une double casquette, puisque vous êtes à la fois la sociologue, l'enquêtrice, et puis aussi j'imagine peut-être pour ces adolescenteux parfois une personne ressource. Est-ce que ça arrive que les élèves vous posent des questions, vous demandent des conseils, se réfèrent finalement à vous comme, alors peut-être pas à une amie ou à une grande sœur, mais en tout cas à une alliée plus âgée à qui on peut demander conseil et vers qui on peut se confier finalement?
Oui, pas tous, mais certains élèves m'ont qualifiée d'expert de la sexualité. Donc du coup, il y a des questions qu'ils peuvent me poser, notamment en entretien à un à un. Il y a également des élèves pour qui c'est important quand je suis dans l'établissement, qui viennent me trouver ou passer du temps avec moi, ou qui demandent quand je ne suis pas là, quand est-ce que je reviens, qui aimeraient que je vienne avec eux en classe, enfin voilà, un certain soutien, je pense. Et également, peut-être parfois un petit peu trop, par exemple, il y a un élève qui m'avait donné le numéro de sa marraine lesbienne, parce qu'il voulait que je fasse partie de sa famille. Donc voilà, il y a certaines limites à poser, mais je pense que le fait que je sois pas quelqu'un de l'établissement directement, que je n'ai pas d'impact sur leur scolarité et que je ne sois pas associée au monde médical comme peut l'être l'infirmière, fait que en fait c'est un peu particulier d'échanger avec en fait une adulte qui connaît le sujet, qui est concernée, mais qui en fait est juste complètement extérieure à la famille, à l'école et à la médecine.
On voit bien comment vous pouvez finalement être une personne ressource. On sait que la capacité, la faculté à faire le récit de soi, à répondre aux questions d'une sociologue, cette capacité, elle est très située socialement. On sait que c'est plus facile pour les personnes issues des classes supérieures, culturelles notamment, de mettre en récit sa propre vie. Est-ce que de ce point de vue-là, vous voyez des différences entre vos deux terrains sur la facilité ou la capacité qu'ont les élèves à répondre à vos questions ou à passer du temps avec vous, donc entre votre collège parisien intramuros et votre collège situé en périurbain dans le Nord-Pas-de-Calais?
Je vois bien une différence dans la façon de répondre aux questions, mais surtout dans la façon de répondre aux questions sur sa sexualité. Et ça, cette différence-là, elle est... bien évidemment impacté par la classe sociale, mais aussi par en fait la façon dont on pense sa sexualité. Et donc il y a certains élèves qui vont penser leur sexualité comme une sexualité parmi d'autres, et du coup qui vont répondre aux questions, mais qui vont pas forcément politiser leur sexualité, et du coup dont les réponses vont être oui bah moi c'est comme ça, et forcément plus approfondi que ça. À l'inverse, d'autres élèves, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les élèves en questionnement de genre, qui vont en fait vraiment approfondir leurs questions et vraiment un peu introspecter en fait leur parcours. et se prêter au jeu, en tout cas. Et ça, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément que des élèves issus de classes sociales supérieures. Ça va être des élèves dont les parents sont assez militants. J'ai notamment un élève en fait dont le père est syndiqué à la SNCF et en fait qui du coup en fait est allé en manifestation tout ça et qui du coup en fait a un assez fort récit de soi qui va donner du coup des réponses assez intéressantes.
Quand est-ce que vous avez prévu, Alice, de quitter vos deux terrains d'enquête et est-ce que vous avez prévu de faire un retour sur votre travail aux collégiens et collégiennes que vous avez rencontrés ? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'elles vous demandent ?
Donc, je quitte mon terrain d'enquête parisien là à la fin de l'année scolaire, donc en fin juin, et le deuxième terrain à la fin de l'année prochaine, donc juin 2027. Et oui, j'ai bien sûr prévu de faire un retour aux élèves. Ce qui est assez compliqué, c'est que ça reste des enfants et que donc parfois le vocabulaire employé est pas facile à comprendre.
Vous allez devoir faire un gros travail en fait de vulgarisation, on pourrait dire, de votre travail pour qu'il soit accessible à un jeune public.
Oui, c'est ça. Ouais. Je vais faire un gros travail là-dessus et aussi, je pense peut-être sélectionner certaines informations parce que c'est assez dur, en fait, je pense, de se voir auto-analyser, surtout sur ces questions-là. Par contre, en fait, le retour que j'ai envie de faire, c'est aussi... Enfin, ils m'ont beaucoup donné, et du coup, j'aimerais aussi leur rendre. Et du coup, je me rends assez disponible pour tout ce qui est préparation d'oral du bac, sur n'importe quel sujet. S'ils ont, pour beaucoup entrent en seconde, donc en fait sur des stages de seconde obligatoires maintenant, sur des contacts par rapport à l'université. J'ai aidé d'anciens élèves là à préparer leur vœu Parcoursup. Mmh. Donc en fait, c'est peut-être une façon un peu différente de faire un retour sur mon terrain. Mais en tout cas, c'est une façon qui, pour eux, fait sens. Et pour moi aussi, du coup. Mmh. Donc voilà.
Pour terminer, est-ce que vous auriez, Alice, une recommandation culturelle dont vous aimeriez nous faire part, en lien ou non avec votre travail de thèse ?
Oui, je pense notamment à deux livres jeunesse, parce que je pense que la façon de comprendre le mieux les adolescents, c'est peut-être de savoir ce qu'ils lisent, de savoir ce qu'ils écoutent. Et donc, je dirais « Ils meurent tous les deux à la fin » de Adam Silvera, qui est un roman sur deux adolescents gays.
Merci beaucoup Alice, on arrive déjà au terme de cette émission et on va devoir arrêter là cet échange passionnant. Encore une fois, un grand merci à Alice Vernet-Eternaud d'avoir accepté notre invitation au micro d'Enquête en tout genre. Merci aussi à Thomas Belalfaoui qui était à la réalisation aujourd'hui et qui m'a accompagnée dans la préparation de cette émission. Quant à moi, je suis Mathilde Barbier et j'ai eu le plaisir de préparer et de mener cette discussion aujourd'hui. C'était la dernière émission de la saison, mais une saison 2 est prévue. Alors on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Enquête en tout genre qui sera présenté par Thomas Belalfaoui à l'automne prochain sur Radio Campus Paris.